J'ai besoin d'écrire. C'est mon oxygène. Un jour où je n'écris pas, j'ai les doigts qui me démangent. Je ne dois pas être un vrai écrivain parce qu'un vrai déchire les feuilles, les jette à la poubelle, s'arrache les cheveux, tourne en rond. Moi, j'écris une phrase et je suis béate. J'aime ce que j'écris, j'écris ce que j'aime. Je ne vais pas vous dire que je suis belle, jeune et mince.
Le grand atelier.
Mais mon écriture est belle, jeune et mince, je trouve.
Sur France Inter.
À peine vous avais-je annoncé sur le Facebook du Grand Atelier la venue de Suzy Morgenstern que vous commenciez à écrire des messages enthousiastes. Exemple, waouh, chance, ou bien super cadeau, j'adore. Ou encore, quand cette écrivaine de livres de jeunesse passe à la radio, je n'accepte les invitations de mes voisines que si elles acceptent d'allumer France Inter pour ne pas en perdre une miette. C'est fou comme cet auteur de livres de jeunesse qui écrit de plus en plus pour les adultes a du succès auprès des enfants, des adolescents, mais aussi de leurs parents. Alors qu'est-ce qui les séduit? Sa simplicité, sa sincérité, l'éclectisme des sujets abordés, l'amour, le désir, la gourmandise, le corps qui vieillit, la maladie, la mort. Pas de tabou, aucune censure, elle peut même être crue à condition de trouver les mots pour le dire. Lisez Confession d'une grosse patate, La sixième, Fleur tardive, La langue. Je ne citerai pas tous ses ouvrages, elle en compte au moins 140. Il est possible que ses lecteurs apprécient aussi le personnage Morgenstern, extravagant, souriant, haut en couleur, comme le rose qu'elle chérit et qu'elle porte souvent en plus de ses lunettes en forme de cœur. Elle qui aime les comédies musicales mériterait d'avoir un jour un musical à Broadway, racontant sa vie et son don de raconter joies et malheurs, en voyant toujours le verre à moitié plein. Bonjour Suzy Morgenstern.
Bonjour Vincent.
Ça fait plaisir de vous voir.
Et moi aussi.
Une comédie musicale sur vous, ce serait formidable.
Mais c'est mon rêve. Absolu.
Ah bon?
Vous savez, j'ai fait une année à la FEMIS pour adapter un livre en film.
Mais je savais pas, l'école de cinéma, donc à Paris.
Ouais. Et le livre que j'ai choisi, c'est La chemise d'une femme heureuse. Et j'ai écrit tout le scénario pendant un an avec les chansons. Mais je crois que là, je suis trop vieille pour aller chercher des producteurs, des diffuseurs, il y a des choses où c'est trop tard.
Et ça raconte votre vie, ce disque?
Non, ça raconte l'histoire, encore une fois. Il y avait beaucoup de librairies qui m'ont dit qu'ils peuvent pas le vendre à des enfants. Ça raconte l'histoire d'un roi qui a tout pour être heureux, qui aime sa femme, mais sexuellement, ça va pas. Alors, elle aime le pâtissier et tout ce qu'elle aime dans la vie, c'est de casser les œufs.
Mais c'est pas vraiment votre vie. Moi, je voudrais la voir sur scène et chanter par vous, raconter par vous. Je voudrais que vous participiez à cette comédie musicale. Ça, c'est impossible. Parce que vous avez déjà dit des textes à vous sur scène.
Confession d'une grosse patate, pendant 3 ans de tournée, une galère pas possible, une agonie, où je me suis rendu compte que je ne suis pas comédienne.
Vous étiez mauvaise?
J'étais heureuse seulement à la fin. Je respirais pas, le trac terrible.
Ben oui, vous êtes mieux devant votre table de travail à écrire énormément d'ailleurs.
Ouais. Hein, non, j'aimerais pas jouer, mais j'aimerais que ça se fasse, mais je fais rien pour.
La musique, on sait qu'elle est importante dans votre vie. Vous avez écrit sur Gershwin, sur les comédies musicales. On aura l'occasion d'en parler dans votre grand atelier, Suzy Morgenstern, mais vous avez joué de la contrebasse aussi.
Ouais.
Et ça, c'est du passé.
Oh oui, c'est physique, c'est trop physique. Mmh. Et j'ai 100 marches pour monter chez moi. Je me vois pas monter avec la contrebasse, ni descendre avec la contrebasse. J'ai laissé, c'était le sacrifice de mon immigration en France, j'ai laissé ma contrebasse.
Quand vous aviez 22 ans et que vous arrivez à Nice avec votre mari français.
Et mon mari a combiné avec notre ami Philippe Bender, qui est chef d'orchestre Cannes Provence Côte d'Azur, de me prêter une contrebasse. Et un jour, à la fête des mères, je suis descendue et il y avait la contrebasse comme une diva sur le divan. Et j'ai pleuré.
Oui, vous avez pleuré.
J'ai dit à mon mari, ça te suffit pas que j'élève tes enfants, que je fasse la cuisine, les courses, que je travaille à plein temps à l'université, que j'écrive. Tu veux encore que je joue la contrebasse?
Et comment a-t-il réagi, Jacques Morgenstern?
Il pensait me faire un magnifique cadeau.
Est-ce que la musique aurait pu devenir votre profession? Et à quel moment c'est l'écriture qui a pris le dessus?
J'étais pas assez bonne. J'étais consciente de ne pas être assez bonne. En ce moment, je fais une application sur mon téléphone, Simply Piano. Et je joue tous les jours, mais je sais que je joue mal et que je jouerai jamais bien.
Ouais.
Ça, je fais pour l'acuité cérébrale.
Et puis, vous aimez bien être active et découvrir des choses. Bienvenue dans votre grand atelier. Est-ce qu'on est en train de vous voler 2 heures d'écriture, là?
Mais peut-être cette séance va rentrer dans mon écriture.
Ah, vous pourriez voler des choses.
Oui, je vole de partout.
Oui, vous dites que vous êtes une voleuse.
J'ai une amie qui m'a fait signer un contrat comme quoi je ne parlerai jamais d'elle. C'est dangereux de me connaître.
C'est vrai.
J'ai parlé de mon invité, Dr.
Oui.
Baranger.
Il
a un rôle dans mon livre.
Emmanuel Baranger qui est avec nous pour participer à votre grand atelier. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous occupez des malades, vous êtes chirurgien spécialiste du cancer. Est-ce que vous êtes oncologue? Comment faut-il vous présenter?
Chirurgien, oncologue, spécialiste de la femme.
Et notamment de Suzy Morgenstern.
C'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer et de participer à un chemin de vie de Suzy à un moment où elle en avait besoin et je trouvais cette femme merveilleuse.
Et vous aurez l'occasion de nous raconter à la fois votre relation à cette patiente et puis aussi aux autres patients et la manière dont vous définissez et vivez votre métier et votre lien aux patients ensuite, après les opérations. C'est important dans votre projet de travail. Alia Morgenstern, voilà l'une des filles de Suzy Morgenstern. Bonjour.
Bonjour Vincent.
On vous avait déjà rencontré dans l'atelier de votre mère il y a quelques années sur France Inter. Vous êtes linguiste, professeur de linguistique à l'université de la Sorbonne, mais vous avez un rôle très important. Je vous laisse le dire, ce rôle auprès de votre mère.
Auprès de ma mère, j'ai plusieurs rôles auprès de ma mère, mais par rapport à elle en tant qu'écrivain, je corrige ses manuscrits. Donc je suis correctrice et je m'énerve sur ses imparfaits, ses passés composés.
Mais est-ce qu'il vous arrive d'être
le genre aussi
d'être
le...
un peu émerveillée par ce qu'elle écrit?
Mais bien
quand
sûr,
même.
Je suis bon. Totalement émerveillée. C'est juste un petit peu difficile parce que quand je lis ses manuscrits pour la première fois, c'est toujours pour la corriger. Et il y a des choses à corriger. Donc il faut que je puisse ensuite prendre de la distance et relire les livres sans avoir ce rôle superposé sur ma propre fascination.
Elle a pris le relève de son père.
Jacques Morgenstern.
Qui, lui, chaque fois qu'il y avait 3 fautes dans une phrase, il écrivait dans la marge « merde ».
En rouge.
Et j'ai des manuscrits avec « merde, 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 merde ». Tout le long. Elle est plus douce, mais elle me gronde.
Mais c'est une prof, hein?
J'ai une prof, mais il y a aussi le fait que depuis l'époque de mon père, ma mère écrit maintenant sur l'ordinateur, donc elle m'envoie des documents Word électroniques et que j'utilise le mode correction. Et en fait, j'essaye d'expliquer aussi pour être prof, mais en fait, elle fait accepter toutes les modifications dans le texte.
Vous en moquez complètement de ces corrections.
Non, c'est pas vrai.
Elle est très indisciplinée. C'est aussi pour ça qu'on aime ses livres, Suzy Morgenstern. On commence toujours l'émission en chantant et en chanson. Je sais que vous aimez chanter, donc si vous avez envie de pousser la chansonnette pendant 2 heures, n'hésitez pas, hein, Suzy, lancez-vous. On a choisi une version de En sortant de l'école, vous savez, la chanson de Prévert, non pas par Montand, mais par Alain Souchon.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile partant pour le Japon, et les 3 mousquetaires des 5 doigts de la main tournant la manivelle d'un petit sous-marin plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré
sur la voie de chemin de fer, une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous sur notre chemin de fer, on s'est mis à voler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, et la maison s'est arrêtée, et le printemps nous a salués. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers, sur la voie de chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied, tout autour de la terre. À pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
Suzy Morgenstern, qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone ?
J'essaie de trouver mon manuscrit.
Ah oui, est-ce que vous nous lirez un extrait de ce que vous êtes en train d'écrire en
ouais,
ce moment ?
Ouais.
Il paraît que c'est vaguement érotique.
Ah oui, c'est terrible. Je ne sais pas ce qui m'arrive dans ma vieillesse. C'était une commande. L'éditeur Thierry Magnier m'a demandé un roman érotique. Et je le lis quand ma petite fille Emma, qui va avoir 18 ans, vient à la maison.
Donc, ce n'est pas la fille d'Alia, mais de votre autre fille.
La fille de Maya. Et elle met ses mains devant son visage. Et elle dit, mais c'est dégueulasse! Elle dit, ah, tu ne peux pas dire ça. Et puis, elle dit, mais elle est malade, mon héroïne. Et quand même, chaque fois qu'elle vient, elle dit, t'en as écrit encore?
Ah, et donc ça marche. Vous écrivez donc un roman érotique à destination des adolescents.
Ouais.
Il va s'appeler comment ce livre ?
Touche-moi.
Vous avez un extrait alors ?
Oui. Mais j'ai pas un extrait chaud, mais...
Ah, mais il nous faut du chaud.
Ah, ok. Du chaud.
Professeur Barranger, j'en profite pour vous demander, elle est comment comme patiente Suzy Morgenstern ? Quand on a dans ses lits une Suzy Morgenstern, on a qui en face de soi ?
L'image que j'ai de Suzy, alors je l'ai vue à différents moments de sa vie, bien évidemment, et de ce qu'elle a pu subir.
Suzy sort d'un cancer, en tout cas a été soignée par vous et d'autres médecins.
En partie.
Et opérée par vous, oui. Emmanuel Barranger, d'un cancer.
Soignée par elle aussi, par elle-même.
Et c'est surtout ça que je retiendrai d'elle, moi. C'est que j'ai vu une Suzy à un moment où elle découvrait la maladie, où elle subissait l'annonce, et puis après une battante, immédiatement une battante, qui a pris en main ce qu'elle devait vivre, qui a influencé, à mon avis, par sa façon d'être, les résultats obtenus, la tolérance au traitement. Et puis maintenant, ben, je la vois lors des suivis réguliers où elle m'amène de la joie, de la bonne humeur, même dans la salle d'attente. Et c'est une femme complètement, enfin pour moi, transformée par rapport au premier jour où je vous ai rencontré, parce que je ne la connaissais pas avant. Mais c'est vrai que c'est, elle exprime la joie de vivre.
Le premier jour, vous lui dites vos examens sont mauvais, il faut vous opérer, vous avez un cancer.
On lui a déjà un peu annoncé un peu avant. Mais j'ai donné mon point de vue sur la prise en charge de mon côté, qui était l'aspect chirurgical, où malheureusement je ne pouvais pas intervenir à ce moment-là et qu'il fallait décaler la prise en charge chirurgicale et faire...
Une chimio d'abord.
Ce qu'elle a accepté.
Suzy Morgenstern, vous vous souvenez forcément de ce moment-là.
Ah oui.
Vous aviez subi, et vos enfants aussi d'ailleurs, la maladie de votre mari, Jacques, qui
oui,
est mort d'un cancer.
Dans le même hôpital.
Dans le même hôpital à Nice.
C'était doublement difficile de retourner à l'hôpital. Et le centre anticancéreux, la Cassagne, dont Dr Barranger est le directeur, on a l'impression que le monde entier a le cancer. Il y a des gens partout. Partout. Et les salles d'attente sont dans une espèce de couloir, confortablement installé, mais un couloir quand même, et plein. Et docteur Barranger, c'était mon tour, je suis entrée, je savais que ça devait être vite, parce qu'il y avait tous ces gens qui attendaient. Et je ne sais pas comment on vit ça, d'avoir tous ces gens qui attendent. Et il a pris le temps. Il m'a dit cette première fois, je ne l'ai pas entendu, c'est ma fille qui l'a entendu, que mes chances ne sont pas excellentes, j'étais stade 4.
Sur un niveau de combien?
De 4.
4.
Ah oui, ah oui.
Et il m'a dit,
mais il y a
chances...
des traitements quand même pour les stades 4.
La preuve.
La preuve.
Et j'ai dit, alors, pourquoi entrer dans ce traitement dur, faire tout ça? Et il m'a dit, pour améliorer les chances. On s'est embrassé à la fin, je l'ai embrassé.
Déjà? Déjà?
Ah oui, la première fois. Et on est resté un bon moment. Et ma question à Dr. Barranger, c'est qu'est-ce qu'on fait quand les gens ne veulent pas se faire traiter?
Ouais, c'est un véritable échec pour nous. Heureusement, pas souvent. Après, ça dépend du type de malade que l'on peut rencontrer, ça dépend de la personnalité de chacun, ça dépend de l'environnement. Mais ça arrive de plus en plus fréquemment. Alors peut-être parce que finalement, je commence un peu à vieillir et à voir de plus en plus de personnes. Est-ce que c'est un phénomène sociétal? Je ne sais pas, mais il est vrai que maintenant, avec la diffusion de l'information dans les réseaux sociaux en particulier, l'asymétrie de connaissances qui peut exister aujourd'hui entre le patient, l'humain, et puis le médecin, fait que le choix de la décision est peut-être plus ou moins bien orienté. Il nous arrive parfois de devoir convaincre quelqu'un de la nécessité d'un traitement.
En tout cas, vous dites la vérité tout de suite. Vous avez dit à Suzy, stade 4, vous avez peu de chance.
Je suis d'une génération où on ne cachait plus la maladie. Après, il faut avoir suffisamment de relation avec la personne en face pour savoir ce qu'elle veut entendre et ce qu'elle peut entendre.
De Suzy, vous avez senti une possibilité d'entendre sa maladie?
Immédiatement.
Et si je peux intervenir, ce qui est complètement l'opposé de ce qui s'est passé avec mon père, c'est que mon père avait un cancer du côlon et on n'a jamais prononcé le mot cancer à l'époque. Et il a fait une chimio extrêmement lourde et c'était une espèce de prévention en fait.
Est-ce que pour la guérison et le traitement et la qualité du traitement, il faut dire les choses telles qu'elles sont?
Oui, je crois, parce qu'il faut un accompagnement. C'est une bataille, un combat qui se fait à plusieurs, dont le médecin participe, mais surtout le patient, donc il doit savoir ce qu'il a exactement. Et pour revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'il m'est arrivé parfois de voir des patientes en consultation qui, lorsque je les interroge sur leurs antécédents, je leur dis « Est-ce que vous avez déjà eu un cancer ?»« Non, non, j'ai été traité pour un problème au niveau d'un organe. » Je dis « Quel traitement vous avez eu ?»« Bah, j'ai eu des rayons, j'ai eu de la chimiothérapie. » »« Et vous n'avez pas eu de cancer ?»« Ah non, non, bah, jamais dit que j'avais eu un cancer. » Mais en tout cas, il faut répondre à ce que la personne en face a envie d'entendre. Il faut s'adapter à ça. Si le mot cancer ne doit pas être dit frontalement, il ne doit pas être dit frontalement. Il doit être exprimé, il doit être explicité, pas forcément au premier contact. Parce qu'à un moment, si la personne vous dit « bah finalement j'ai un cancer ou pas », vous ne pouvez pas mentir. C'est surtout pas mentir, à mon avis.
Vous parlez, Suzy Morgenstern, entre votre médecin, il n'est pas le seul, mais en tout cas c'est celui qui vous a opéré, Emmanuel Barranger, et vous, d'amour. Il est de quel ordre cet amour-là? Comment vous pourriez en parler?
C'était tout un amour. J'ai jamais pensé d'un combat. C'était le pied. Un jour, j'avais pas assez d'hémoglobine et j'étais privée de chimio.
Privé. Vous entendez le terme, privé.
J'attendais ce moment. C'était
parce qu'il était convivial, ce moment?
C'était convivial. J'ai toujours eu une grande relation avec ma copine de chambre. On m'a amené un sandwich. Ah, c'était le meilleur régime de ma vie. J'ai perdu 25 kilos. Perdu et retrouvé. Mais tout était bien. La réception, les gens, les infirmières, j'ai le plus grand respect pour les infirmiers.
Est-ce que vous preniez des notes parce qu'on va retrouver votre maladie et votre guérison dans vos livres?
J'ai écrit 4 livres pendant ma chimio.
Oui.
Tu vois, nausées, tout ce qu'on veut. J'écrivais, ça faisait partie de
votre thérapie.
Oui, puisque je ne peux pas vivre sans.
Vous avez observé ça, professeur?
Oui, quand je venais la voir lorsqu'elle était hospitalisée, je me souviens qu'elle prenait des notes, toujours un papier, un stylo à côté d'elle ou un ordinateur.
Maria Morgenstern.
Mais il faut savoir en plus que ma mère tient une sorte de journal. Alors, il y a un journal écrit à la main, il y a un journal électronique et elle nous envoie des courriers électroniques qui sont ensuite diffusés à tous ses amis, toutes ses relations. Ouais. Et c'est tous les jours, tous les matins, on se réveille et il y a un message de ma mère. Ben, elle raconte la veille. avec son langage à elle.
C'est mon journal intime, mais qui n'est pas intime, qui n'est parce pas que intime. Chez moi, rien n'est
Ah non, il n'y a rien d'intime chez vous. Pourquoi d'ailleurs? C'est venu quand ça? J'ai l'impression que petite fille, déjà, aux États-Unis, vous écrivez un journal.
Oui,
mais... Que c'est une habitude d'enfance.
Je suis née dans une famille tellement bruyante que la seule façon pour moi de parler, c'était d'écrire.
Pourquoi bruyante?
Parce que tout le monde parlait en même temps, parce que tout le monde avait un avis très fort et je pouvais pas placer un mot. Et même adulte, quand je suis avec ma sœur, je pouvais pas placer un mot.
Vous étiez la moins bavarde de la famille?
Oui, timide.
Et du coup, vous écrivez?
J'écris pour vivre. Je pensais ce matin à l'atelier, la notion de l'atelier. Tout est mon atelier. Je peux écrire dans le métro. J'écris partout. C'est vraiment le métier portable par excellence.
On va vous laisser retrouver dans votre téléphone, Suzy Morgenstern, le roman que vous êtes en train d'écrire.
Hein,
on a très envie d'entendre ça, l'érotisme à destination des adolescents. Et on va écouter Mac DeMarco.
Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Même au lycée, il y a des couples main dans la main qui se bécotent dans les coins sombres des couloirs. Moi aussi, je voudrais une main, une bouche, une petite caresse, une embrassade, puisqu'il y a tant de pubs pour ce voyage vers l'inconnu. Je fixe l'entrejambe des mâles que je croise pour vérifier s'il y a une bosse. Je touche par fausse inadvertance la cuisse avec la mienne de mon voisin de table en classe. Ça me fait drôle, mais lui apparemment ne ressent rien. Il ne me regarde pas. Personne ne me regarde, à part mes copines. Bénies soient les copines. Et mes sœurs, elles me regardent trop. Je sais qu'il y a balance ton porc et MeToo. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais depuis une grande partie de mes 16 ans de vie, j'attends qu'on me touche. Mais rien, pas le moindre câlin. On ne peut pas se donner soi-même un câlin, ou mentalement peut-être. Oui, dans ma tête, la nuit, dans mon petit lit, je me vois dans les bras de tel ou tel garçon de ma classe ou d'une autre classe ou tel chanteur ou vedette de cinéma. Au lieu d'un homme en chair et en os, je me frotte à mon matelas et je fais l'amour à mon oreiller. J'ai eu mes règles, tardivement, après toutes mes amies, l'année dernière. Je suis donc une femme. Malgré mes problèmes oculaires, je suis une bonne élève. J'aime vivre, rire, lire, marcher en ville et dans la nature, aller au cinéma, faire des courses, traîner. Mais surtout, j'aime m'imaginer étalée au lit avec quelqu'un qui parcourt mon corps avec ses mains, sa bouche, son cœur. En attendant, et faute de mieux, ça m'arrive d'envahir mon vagin de mon propre droit, de fouiller là-dedans en faisant travailler mon cinéma personnel et d'atteindre une sorte de soulagement. Pas une porte-tambour, juste une sortie de secours. Petite dernière de 4 enfants dans une famille ni riche ni pauvre, plus ou moins heureuse, mes sœurs essaient de m'habiller pour le mieux. Elles savent que je suis obligée de garder mes lunettes noires tout mon temps éveillée et de porter des grands chapeaux ridicules pour me protéger du soleil. Je ne suis pas complètement moche, ou bien je me suis habituée à ce que je vois dans le miroir, mais les autres non, car je suis une albinos.
Voilà un extrait en avant-première pour les auditeurs et auditrices du Grand Atelier du futur roman à paraître de Suzy Morgenstern pour les enfants, les adolescents. Les adolescents, à partir de quel âge on pourra lire « Touche-moi » ?
10 ans.
10 ans. Jusqu'à 100 ans, à peu près.
Avec le consentement des parents. Je vois ma fille qui est en train de penser « t'aurais dû me le montrer ».
Non, c'est très bien, il y avait une seule faute.
Qu'est-ce qu'il y avait comme faute, Alia ?
Il y avait une faute de genre... Les auditeurs l'entendront, mais c'est très joli.
Il n'y a pas beaucoup de corrections, alors?
Ben, en tout cas, à l'oral. Après, à l'écrit, ça n'a rien à voir, l'usage des temps. Donc, je me dis qu'avec les explications, elle aurait dû intégrer. Mais non, là, il y a un manque de plasticité cognitive énorme par rapport à l'usage des temps. Mais c'est une marque d'identité. Je pense qu'elle ne veut pas lâcher son identité américaine et entrer dans un français tel qu'on le parlerait si on était né en France.
À partir de quel moment, d'ailleurs, vous avez écrit en français?
Tout de suite, quand j'avais un vocabulaire de 50 mots. Mes enfants parlaient français entre eux. J'étais dans un bain de français, j'ai écrit en français.
Mais moi, je pense que vraiment, il y a le fait de se différencier de la famille maternelle. Parce que c'est une famille dans laquelle il n'y avait pas d'intimité et dans laquelle on disait tout. Et là, on peut dire tout, mais ailleurs, dans l'écriture et autrement, dans une autre voix, une autre langue.
Vous vous êtes émancipée de votre famille en écrivant en français ?
Peut-être un peu, mais ma mère lisait mes romans en regardant chaque mot dans le dictionnaire.
Et vous disiez quoi?
Et surtout ce livre que j'ai écrit avec Alia.
Terminal, tout le monde descend.
Ouais.
La relation entre une mère et sa fille.
Ouais. Hein. Il y a à dire.
Professeur Baranger, vous venez d'entendre, je le disais en avant-première, ce livre en train de s'écrire. Et finalement, des choses se rejoignaient entre vous. Suzy dit tout ou trouve les mots pour dire tout. Et vous, vous dites la vérité à vos malades. Est-ce que vous avez fait ce lien aussi entre vos deux façons d'agir ?
C'est vrai que je ne me suis pas posé la question. Ça me paraît naturellement. Ce que je voulais simplement dire, c'est que je trouvais que c'était à la fois charmant ce qui était écrit. Je n'avais fait aucune correction, je n'aurais aucune correction à faire, même sur l'aspect anatomique. Je pense que tout est dit précisément, joliment, comme ça doit l'être. C'est vrai qu'il y a une certaine forme de similitude, probablement, dans la façon de dire les choses, d'exprimer les choses, avec le rythme de la voix qui a été énoncé ici aussi. Tout dans le fait que ce doit, à mon sens, être posé, calme, dans un environnement serein, comme ça peut l'être aussi aujourd'hui ici, c'est à mon avis aussi important que les mots eux-mêmes.
Ce qu'on appelle aussi le verbal et le non-verbal.
Le non-verbal, oui. Ouais. Le temps de pause, le temps de silence, pour que la personne ait le temps de comprendre ce qui a été dit et ce qui a été énoncé dans des termes qui doivent être le plus simples possible, comme c'est également dit ici. C'est vraiment une pédagogie. Parce que très facilement, nous, techniciens, avons la facilité de parler avec des mots très techniques, incompréhensibles. Ça peut nous faire plaisir, mais finalement, ça ne rend pas service.
Absolument. Alia. Moi qui fais un petit peu de formation, un tout petit peu en médecine en tant que linguiste, je trouve qu'on n'apprend pas assez aux étudiants en médecine à parler aux patients avec un langage que les patients soient capables de comprendre. Et ils ont tendance à se réfugier derrière la technicité pour peut-être ne pas laisser l'émotion.
Très intéressant. Qu'est-ce que vous apprenez à des étudiants en médecine, vous la linguiste?
Ben justement, à trouver comment dire la vérité ou la réalité avec un langage qui permet d'atteindre les patients et à utiliser aussi ce que vous avez appelé le non-verbal, c'est-à-dire son corps, sa gestualité, ses expressions faciales, ne pas rester impassible, entrer en contact sans non plus entrer dans le pathos, mais entrer en contact avec le patient, éventuellement même pouvoir toucher un bras, prendre la main, éventuellement,
mais ça,
dans
vous
certains cas.
Comment vous savez ça? Vous êtes linguiste, vous ne savez pas tout ça logiquement?
Alors moi, je suis une linguiste qui pense que le langage n'est pas seulement dans le verbal, mais qu'il est dans toutes nos ressources sémiotiques, tout ce qu'on utilise pour communiquer. Et je travaille sur les interactions en milieu familial, donc entre les parents et les enfants, c'est là où je rejoins ma mère. Et je travaille sur tout ce qui se communique et comment ça se communique entre des parents et des enfants.
Emmanuel Barranger, vous devriez employer, embaucher Alia Morgenstern.
Bah, il le sait tout seul.
J'en suis convaincu. Mais même au-delà de ça, je pense que des personnes comme Suzy, l'expérience des gens qui ont vécu la maladie et qui sont capables de l'exprimer avec une certaine forme d'empathie, mais sans aller dans le sensationnalisme, sont à mon avis une richesse à l'égard des autres patients, mais aussi à l'égard des futurs médecins. Je pense que cette partie-là devrait être enseignée dans les facultés, de pouvoir recevoir des patients que les anglo-saxons appellent les patients formateurs, c'est apprendre à communiquer, apprendre à exprimer les choses, à entendre l'autre. Je pense que c'est fondamental. Je remercie Suzy pour tout ça. Parce que c'est un vrai bonheur à chaque fois que je la reçois en consultation.
J'étais au lit avec la chimio et mon oncologue, Dr. Véronique Marie, entrait dans la chambre en faisant un geste victoire parce que les marqueurs baissaient et elle jubilait avec moi ainsi que toute l'équipe. Et la maladie aussi est une richesse.
En quoi?
De richesse, on apprend l'empathie, on apprend ce que c'est. Dans une autre logique de la vie, j'étais souvent au lit comme une zombie et j'étais heureuse d'avoir un lit. Il y avait beaucoup de bonheur et ma fille Alia venait tous les week-ends, elle prenait le train vendredi soir, elle repartit dimanche soir, elle venait toutes les semaines de Paris pour s'occuper de moi. Et c'est comme ça que moi, je lisais ces articles scientifiques qui sont lus par 3 personnes et demie.
Oui, mais dans le monde entier.
Et je lui ai dit, pourquoi ne pas écrire un livre qui simplifie le procédure d'apprendre à parler? Et c'est comme ça qu'on a écrit La Langue.
La Langue, comment tu as appris à parler, dont on parlera en deuxième heure avec l'illustrateur Serge Bloch, qui a bien travaillé aussi avec vous sur ce livre sur l'apprentissage du langage. Vous aimez toujours Mozart?
Toujours.
Vous voulez qu'on l'écoute?
Oui. Hein,
dans une version réinterprétée par un immense compositeur et pianiste turc qui est Fazil C.
Thank you.
Suzy Morgenstern dit waouh. Vous jouez
je
comme
dis
ça
beaucoup wow.
Vous dites et, beaucoup wow.
Et là, je le souhaite à tout le monde de dire wow c'est au très, moins 20 fois par jour.
C'est très américain, mais vous n'êtes plus américaine depuis longtemps.
Je suis très, très française.
Alors, dans la famille Morgenstern, je ne sais pas si vous connaissez professeur Barranger, l'une des petites filles, je crois que vous en avez deux de petites filles, hein, Suzy.
Deux petites filles, deux petits-fils.
Deux petits-fils. Et j'ai rencontré Yona à la demande de Suzy, sa grand-mère. Yona, qui est une fan des sciences du climat, qui est aussi une fan du chant de jazz, parce qu'on chante dans la famille Morgenstern et elle n'est pas la dernière. Et je suis donc allé la rencontrer, encore une fois à la demande de sa grand-mère, dans le 5e arrondissement de Paris, Yona Sylvie. Yona.
Bonjour.
Alors on est place Jussieu, devant des étudiants qui font du skate.
Exactement.
Et vous, vous enseignez alors ?
J'enseigne deux modules, un petit module en L1 de recherche encadrée sur l'océan, donc faire un petit peu comprendre aux étudiants ce que c'est que les grandes forces qui agissent dans l'océan, les courants, etc. Et un autre module de développement durable où il y a un petit peu de climat, d'énergie, de biogéochimie. C'est en fait un peu des notions... C'est des étudiants qui sont en prépa intégrée, donc ils ont beaucoup de cours de physique, maths intense, et là, ça leur fait un module un petit peu différent d'ouverture.
Mais votre passion, c'est la climatologie.
Ma passion, c'est les sciences du climat, oui.
C'est ce que m'a dit Suzy Morgenstern, votre grand-mère.
Oui, alors je pense que dans sa tête, je suis encore un peu la personne qui va présenter la météo. Elle n'a pas tout à fait compris les différences, mais oui, je suis passionnée pour les sciences du climat depuis 2-3 ans déjà.
On est moqueur dans la famille, non ?
Ah oui, oui, très, très.
Je suis jamais rentré à Jussieu, moi.
Il faut montrer juste le sac à l'entrée.
Merci, monsieur. Alors, votre grand-mère vous a vendu comme ça pour un reportage. Yona est super écolo. Elle est experte en climatologie. Elle a un laboratoire et en plus, elle chante. Elle devrait faire un très bon sujet.
Ça, c'est, je pense, le syndrome de la grand-mère juive qui explose les talents soi-disant de ses petits-enfants.
Ben, quand j'étais à France Musique en matinale, elle a réussi à faire jouer en direct son petit-fils.
Oui, c'est vrai, je me souviens.
Mon très cher petit-fils, c'est vraiment un pianiste.
Ben, à tel point que vous l'avez amené avec vous et que je le vois là-bas installé devant le piano, il va jouer ?
Ben, si vous voulez.
Eh bien, on l'écoute, Noam, en direct du studio 107. Votre frère ?
Eh oui, mon frère Noam. D'ailleurs, il est là en ce moment. C'est super de jouer avec lui. Il adore le piano. Il s'est mis au jazz quand il était au lycée. Et c'est vraiment extraordinaire de l'écouter jouer.
On est dans l'ascenseur. Vous avez appuyé sur le bouton 4.
Le bouton 4. Déjà, on aurait pu prendre les escaliers, mais bon. On va rentrer dans le couloir de l'océan.
Il n'y a plus personne, là ?
Un petit peu, mais ça se vide vite le soir.
L'océan, Université Pierre et Marie Curie.
Bon, c'est des bureaux, hein, y a pas rien de très extraordinaire. Ouais, donc on partage nos bureaux entre Thésard, Postdoc. Voilà.
Ça ressemble pas du tout à un labo, ça ressemble à un bureau.
Ah bah oui, c'est un bureau.
On fait pas d'expérience ici.
Pas beaucoup d'expérience, c'est plutôt dans les labos type biologique, on va avoir des paillasses. Nous c'est plutôt bureau ordinateur.
Alors, qu'est-ce que vous faites, Yona, ici, dans ce labo qui ressemble à un bureau ?
Alors, moi, je travaille sur l'impact du changement climatique dans l'océan, et en particulier sur les changements de température et de salinité. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de regarder quelle part dans ces changements de température et de salinité sont dus à l'homme et quelle part sont dus à la variabilité naturelle du climat.
Par exemple, qu'est-ce qu'on a sur votre ordinateur? Il est allumé. Déjà, c'est de l'anglais.
Déjà, c'est de, oui, la langue scientifique, c'est l'anglais. Bah, là, on a le brouillon de mon premier article que je suis en train d'écrire, que je suis en train d'essayer d'écrire plutôt.
Alors, c'est quoi le thème?
Et le thème, c'est notamment sur la partie du temps, à quel moment le signal humain émerge de la variabilité climatique naturelle dans l'intérieur de l'océan.
Et donc, mais je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, le signal humain.
Alors, ça veut dire qu'on observe une tendance dans un changement de température, par exemple. Mais on va se dire, est-ce que c'est dû à une variabilité naturelle ou est-ce que c'est dû à un forçage humain?
Mais ce serait quoi, par exemple, un exemple de forçage humain?
Ah bah, c'est tout simplement les émissions de CO2 qui vont réchauffer l'atmosphère, qui ensuite va réchauffer l'océan. Si vous voulez, l'océan, il joue un peu un rôle de tampon du changement climatique. Donc, il va absorber tous ces changements et il va les enregistrer. C'est un peu, il a un peu une mémoire du climat, l'océan.
Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous, alors, pauvres humains?
Il y a plein de choses qu'il faut qu'on fasse.
D'abord, les usines, il faut qu'elles polluent moins.
Il y a beaucoup d'échelles, en effet. Donc, si on part d'abord de l'échelle individuelle, de nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? On a chacun une empreinte carbone qui, par exemple, dans les pays occidentaux, sont assez élevées. Ce qu'on peut faire, c'est la première des choses, moins prendre l'avion. Ça, c'est une grosse partie de notre empreinte carbone. Mieux réfléchir à comment on voyage, aller moins loin, moins souvent. Ensuite, manger moins de viande, ça c'est des choses qu'on connaît. L'agriculture, c'est une grosse émettrice de gaz à effet de serre. Manger local, manger bio, moins acheter de choses neuves, tout ça c'est des choses qui contribuent à notre empreinte carbone. Et de façon générale, essayer de consommer mieux. Acheter moins de choses neuves, essayer de recycler, de réutiliser. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on sait, on en entend parler. Maintenant, il faut vraiment faire un effort pour les appliquer à notre vie quotidienne. Pour moi, c'est vraiment du bon sens.
Qu'est-ce que vous rêvez de faire dans 10 ans? Ce serait quoi votre idéal professionnel, Yona?
Je ne sais pas encore, j'essaie de garder l'esprit ouvert. Pour l'instant, mon début de thèse se passe très bien et j'adore ce que je fais, donc ça m'ouvre un petit peu l'idée à une carrière professionnelle dans le monde académique, de la recherche. Mais je sais que c'est très difficile, il y a très peu de postes, le CNRS coupe de plus en plus les postes chaque année. Et donc j'essaie de me laisser la voie à d'autres possibilités de métier dans le domaine du climat, peut-être dans les services climatiques qui est un domaine émergent en ce moment.
Alors j'ai envie de vous embêter, parce que je voudrais vous entendre chanter, c'est quelque chose de l'ordre du possible ou vous n'avez jamais chanté dans votre labo? Mais comme on est seul, on est deux à Jussieu ce soir.
On est deux dans un petit bureau, il y a plein de gens à Jussieu. Ça me gêne un peu, je vais regarder s'il y a des gens à côté quand même.
Il n'y a personne.
La voix est libre littéralement, je vais boire un petit coup d'eau.
Vous êtes sympa hein? Elle m'avait prévenu, votre grand-mère.
Mais oui, mais elle me coince, en fait. Elle dit beaucoup de choses et après, je suis obligée de les faire.
Qu'est-ce que vous pourriez chanter?
Je peux vous chanter All of Me. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me?
Bravo!
C'est beaucoup, All of Me.
C'est beau de réunir la grand-mère et sa petite fille, Yona, elle a été vraiment sympa, je le disais, de jouer le jeu comme ça. On fait les choses assez facilement, Alia Morgenstern, dans votre famille, non?
Assez facilement, oui, le milieu professionnel.
Oui, la preuve. Alors, vous avez entendu votre fille, vous étiez fière.
Ah oui, j'étais très très fière. Elle n'était pas très contente d'elle-même, mais moi, oui. Je suis très contente d'elle.
Elle a une certaine autorité, non, grand-mère Morgenstern, votre petite fille?
Ah oui, elle vient d'une longue lignée de femmes autoritaires.
Il faut savoir que dans notre famille, ma mère et ses sœurs sont surnommées « the witches », les sorcières, et que ma famille en Israël a décrété que les descendantes de cette génération n'étaient pas ma génération, mais Yona, ma fille, et sa cousine Or, qui se marient cet été. Donc ça a été transmis à nos enfants.
Alia Morgenstern, votre mère raconte beaucoup de choses dans les livres à destination des enfants, des adolescents, mais de plus en plus de livres pour adultes. Elle peut parler de sexualité, de la sienne, à différents âges, mais pas seulement. Voir tout ça, lire tout ça, assister à tout ça en permanence depuis des années, puisque vous la corrigez, est-ce que parfois c'est difficile?
Alors pour moi, non. C'est peut-être plus difficile pour d'autres membres de ma famille. Et au contraire, je trouve que c'est beau de partager ces perspectives-là sur la vie, cette façon de vivre sa propre intimité et de la partager.
Vous ne craignez pas qu'on sache des choses de vous ?
Bon, de toute façon, on est quand même costumé dans les livres, mais il y a des livres qui sont pratiquement ma vie, celle de mes enfants. Il y a même le livre « Tessin tombe » où ma fille qu'on vient d'entendre est l'héroïne principale et ma mère a proposé de changer son prénom si elle le souhaitait, et puis ma fille a dit non, c'est pas grave. Et c'est vraiment pas un livre qui l'épargne. C'était oui. une adolescente avec tous ses défauts et toutes ses qualités aussi. Mais je pense que c'est ce que font tous les écrivains d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que c'est beau.
Il y a un écrivain américain que vous adulez, Susie Morgenstern, ça n'est pas Paul Auster que vous aimez, c'est Philip Roth. Mmh. Et Philip Roth a beaucoup pratiqué aussi le dire et éventuellement l'absence de censure. Et il s'est exprimé une fois à ce sujet.
Ce qu'il faut dès le début, c'est abandonner toute forme d'autocensure. Faire tout ce qu'on a envie de faire. Avoir honte n'a aucun sens quand vous écrivez. Faut oublier tout sentiment de honte. Ne pas se demander si ce que vous écrivez est convenable. Ça ne veut pas dire qu'il faut être obscène, délirant et tapisser chaque page d'excréments, c'est pas ça. Mais avoir honte, jamais. Mais n'allez pas croire que dans ma propre vie, je n'ai pas d'inhibition. Je suis comme tout le monde. Mais quand je m'assois pour écrire, je me libère complètement.
Une réaction, Susie Morgenstern, et puis ensuite votre fille.
J'ai un aîné dans la même ville, Philip Roth.
Dans le New Jersey.
Paul Auster et moi, à Newark, dans le même hôpital. Et le regret de ma vie, c'est que je ne l'ai jamais rencontré pour de vrai. Et quand il est mort, j'ai écouté des nuits entières ses interviews pour rester avec lui.
Alors, ce qu'il dit là sur l'impossibilité de l'autocensure dès lors qu'on écrit.
Dans ce livre « Touche-moi », mon éditeur m'a écrit en disant « J'interdis à ta petite fille de te censurer ». Je ne sais pas si je me censure, peut-être de temps en temps. Je pense que je n'ai pas de secrets, mais un ami psy m'a dit que tu as des secrets de toi-même. Et depuis, je cherche quel secret je peux avoir de moi-même.
Est-ce que c'est vrai que dès que vous écrivez dès le matin et beaucoup dans la journée, des choses remontent que vous ignoriez peut-être ou que vous aviez oublié, mais que l'écriture a cette vertu de faire ressusciter des choses?
Ah oui, l'écriture, tu es un archéologue de toi-même. Quand j'ai commencé un livre qui s'appelle « La petite dernière » qui parle de mes 10 ans avec mes sœurs, je pensais ne rien me rappeler. Et puis tout a remonté, tout est venu. Et puis je l'ai écrit en anglais. C'est le seul livre que j'ai écrit en anglais parce que c'était mes 10 ans. Et c'est le premier livre que je pouvais lire à mes sœurs. Alors tous les soirs, je lisais ce que j'avais écrit. Et ma sœur a dit, c'est pas vrai, ça s'est jamais passé. J'ai dit, mais oui, je le vois.
Et en fait, vous aviez un peu fictionné malgré vous.
Oui, on fictionne malgré soi.
Je ne sais pas si c'est une histoire de fiction, mais la grande différence entre ma mère et Philip Roth, c'est qu'elle a un filtre qui s'appelle « La vie en rose ». Et tous ses livres finissent bien, les personnages sont heureux à la fin.
C'est un défaut, je n'arrive pas à faire un vilain.
Un vilain, vous dites ?
Un méchant.
Suzy, il y en a dans la vie des méchants.
Je sais
vous avez
pas
des
si...
exemples, certainement.
Mais dans l'histoire, certainement, mais dans ma vie, oui, j'ai un filtre.
La vie est comme vos lunettes roses, avec des cœurs roses, quelle chance. Professeur Baranger, observateur, chirurgien à Nice et spécialiste du cancer. Et également, vous êtes dans la volonté de plus en plus à Nice, au centre Lacassagne, de suivre le patient sur la durée. Comment vous entendez tout ce qui vient d'être dit?
Alors c'est vrai que maintenant, avec l'efficacité des traitements, il est clair que nous sommes de plus en plus confrontés à des, fort heureusement, à des patientes qui vont bien. C'est ce qu'on appelle la chronicité de la maladie, même du cancer finalement, où nous sommes amenés à suivre les patientes sur plusieurs années en subissant parfois certains traitements. Le suivi, je dirais presque aussi important, pas aussi important, mais aussi à prendre en considération que la partie aiguë de la maladie et du traitement. Elles ont besoin souvent, à l'issue du traitement, de se sentir accompagnées pour la suite.
Vous avez même créé une application.
Oui,
sur
on a créé
téléphone.
Une application qui permet de. Alors, c'est vrai que le numérique a des inconvénients, mais aussi beaucoup d'avantages. Permet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, j'en suis convaincu, de maintenir un lien humain avec les personnes que l'on a soignées, entre l'établissement, le professionnel de santé et les patientes. Et
par
nous
exemple,
avons
si,
cette application.
Si ma cicatrice n'est pas très jolie, je fais une photo et je l'envoie.
Je peux envoyer une photo sécurisée, l'envoyant à son chirurgien qui a l'application aussi de son côté, et ensuite rappeler la patiente. Et à mon avis, je crois que c'est un grand plus pour la suite de la prise en charge.
Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie?
Émilie Loiseau, viens avec moi, mon vieux pays. Si vous allez voir le clip, eh bien, sachez qu'il est réalisé en soutien avec le mouvement écologique Nous voulons des coquelicots pour interdire les pesticides de synthèse. Voilà qui fera plaisir à votre petite-fille, Suzy Morgenstern, Yona, Sylvie. Professeur Baranger, je vous laisse prendre l'avion ou le train pour Nice. Vous avez peut-être des patients à opérer, à rassurer.
Demain.
Ils ont de la chance.
Est-ce qu'on peut dire que Suzy est guérie de son cancer ou en voie de guérison? Est-ce qu'il y a une guérison?
C'est toujours une question délicate. Elle va très bien, c'est l'essentiel. C'est comme ça, on est à l'instant T, elle va très bien. Je suis ravi de la voir de cette manière-là. C'est presque une égérie, je trouve, vis-à-vis des autres patientes. Et je me satisfais qu'elle ait accepté cette thérapeutique. Et on voit que le résultat est excellent. Oui, elle va bien, elle va très bien. Et on le voit tous les 6 mois qu'elle va bien.
De toute façon, on est tous en rémission.
Exactement.
Hein. Personne ne sort d'ici vivant. Hein.
Au revoir, Monsieur Barranger.
Merci de votre accueil.
Alia Morgenstern, vous restez avec nous pour la deuxième partie?
Bien sûr.
À tout de suite.
J'adore les bisous. Je fais toujours des bisous. Je signe aussi mes lettres administratives avec bisous. Et puis, je mets des cœurs. We are a little bit crazy. 1, 2, 3, ba-dum. 1, 2, 3, ba-dum.
Deuxième heure en compagnie de la best-seller Suzy Morgenstern, la reine de la littérature jeunesse, l'auteur de Premier amour, dernier amour, de Accroche-toi, de Fleurs tardives, sans oublier Les confessions d'une grosse patate ou La sixième, une Française née américaine qui se passionne aussi pour la musique de Bernstein, de Gershwin. Votre fille, Alia, est toujours avec nous, tout va toujours bien?
Très bien.
Avec nous également l'illustrateur Serge Bloch. Bonjour.
Bonjour.
Max et Lily, c'est vous, entre autres. Oui, et vous avez travaillé avec la mère et la fille, Morgenstern, récemment, pour un livre qui s'intitule
La langue.
Exactement. On en parlera dans un instant avec vous. Il y a une amoureuse de Léonard Bernstein qui lui a consacré un documentaire et une série d'été sur France Musique avec nous. On peut toujours d'ailleurs la trouver, cette série, sur francemusique.fr. C'est Emmanuel Franc. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans le grand atelier de Suzy Morgenstern.
Je vivais tranquille, beaucoup trop tranquille et solitaire. On m'avait couvert d'une nappe brodée pour me protéger de la poussière. Je vivais donc dans l'obscurité depuis des années. Mes cordes ne vibraient pas, mes marteaux ne frappaient pas, plus aucun. Qu'une caresse sur mes touches. J'attendais que l'on me chatouille un peu.
Voilà, vous avez reconnu la voix de lectrice, de diseuse, de conteuse de Suzy Morgenstern qui raconte les premières pages de Monsieur Gershwin, Les gratte-ciels de la musique, qui raconte le piano qui arrive dans la famille Gershwin. Il se passionne tout de suite pour le piano, c'est une passion qui l'aura toute sa vie, hein, Gershwin.
Oh, c'était un genre de minotaure, homme-piano, moitié-moitié, ou trois quarts, un quart. Je pense à la même chose de Bernstein, et je suis en train d'écrire un livre sur Bernstein dans cette même collection.
Chez Didier Jeunesse.
Et pour ça, j'ai écouté les podcasts d'Emmanuel Franck avec une telle admiration que c'était tellement bien fait, tellement complet.
Cette fameuse série d'été sur France Musique l'été dernier sur Bernstein.
En été avec Lenny ou Leonard Bernstein?
Lenny. Et oui. Même dans mon petit langage à moi, c'est Lenny chérie.
Et elle commence la première émission et même beaucoup d'émissions en disant « Ceci est une déclaration d'amour ». Et elle dit exactement les mêmes choses tout le long que j'ai envie de dire. J'ai trouvé mon double. Elle dit, si vous ne l'aimez pas comme moi, je vous rembourse. J'avais l'impression de tout connaître, mais je connaissais pas toute la musique. J'ai appris beaucoup sur la musique.
Alors pour les auditeurs et auditrices qui connaissent pas forcément Bernstein, on va rappeler qu'il a composé West Side Story, qui est le succès que l'on connaît, que l'on voit toujours avec autant de plaisir, je trouve, quand on voit la comédie musicale ou le film. Et Sammy Davis Jr., un jour, en concert, en 1963, s'est mis à faire une sorte de medley des grands airs de West Side Story. Je ne sais pas si vous connaissez cet enregistrement, Emmanuel Franc, Suzy Morgenstern. Et il a juste un musicien avec lui au Bongas et il fait revivre avec son talent inouï West Side Story et Bernstein.
Wow.
Ladies and gentlemen, Mr. Johnny Mendoza, can we spotlight those fingers, please?
Bongo Ming? I play Bongo Ming.
He is a good friend of mine. He's my compadre. Hey, muchacha. When you're a jet all the way from your first cigarette till your last dying day. When you're a jet, if the spit hits the fan, you got brothers around. You're a family man. You're never alone. You're never disconnected. You're here with your own. When company's expected, you're a jet. You're a jet. You're the swingin'est kind of chat, you're a jet. Now we'll be expecting you, Tony, at the gym at 9 o'clock. Don't be late, huh? Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. Around the corner, or whistling down the river, come on, deliver to me. Breeze it, buzz it, easy does it, stay loose, boy, got a rocket in your pocket. Stay cooly cool, boy. Go, man, go. But not like a crazy schoolboy. Just play it cool, boy. Real cool, real cool, real cool. Tonight, tonight, I'll meet my love tonight. Tonight there will be all shining stars. Tonight the world is filled with laughter. The world is filled with music. It's better than all right. Tonight everything's right in America. Everything's bright in America. But nobody knows in America. Puerto Rico's in America. Officer Krupke, we're down on our knees, 'cause no one wants a fellow with a social disease. Officer Krupke, what are we to do? Gee, Officer Krupke. The most beautiful sound I've ever heard. Maria, 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 Maria. All the sounds of the earth in a single word. Maria, 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 I just met a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound could be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft, and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria. The most beautiful sound I've ever heard. Maria.
Ça, oui, on aurait voulu être dans cette salle en 1963 pour écouter la réinterprétation de Bernstein par Sammy Davis Jr. Vous avez dit « Waouh, Suzy Morgenstern ».
Oui, et encore. Enfin, j'étais à ces Young People's Concerts à Carnegie Hall. Et c'était mon introduction à Leonard Bernstein. Mais il était beau. Il avait une voix... Il parlait pas tout à fait américain. C'était quelque part entre l'anglais, britannique et américain.
C'était Harvard.
Emmanuel Franck.
Mais il était très snob, il avait l'accent d'Harvard.
Il n'était pas que chef d'orchestre, ni que compositeur, ni que pianiste. Il était extraordinaire pédagogue.
Ah oui, parce qu'il a beaucoup fait pour faire comprendre et connaître la musique classique aux adolescents et aux enfants, par la télévision, entre autres, Emmanuel
Franck. C'est même un des premiers, ce sont les Young People's Concerts, effectivement. Et ça a eu un succès, mais phénoménal, aujourd'hui encore d'ailleurs. On n'imagine pas, mais à l'époque, c'était diffusé le soir. C'était une émission qui réunissait toutes les familles. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les familles dans le canapé du salon et qui prenaient rendez-vous avec
Bernstein. C'était le cas, Suzy ? Chez les Morgenstern, on écoutait Bernstein à la télé ?
Oui.
Et qu'est-ce qu'on voyait ? Qu'est-ce qu'il disait, par exemple, pour faire aimer la musique ?
Et je me rappelle d'un sur l'humour. L'humour dans la musique. Alors, imaginez, expliquer par des morceaux comment on touche à l'humour dans la musique. Il avait des thèmes comme ça et c'était juste passionnant. Tout ce qu'il disait était passionnant, toujours. Il était pédagogue, pas dans le sens d'un pédagogue, mais dans le sens spirituel, comme un rabbin, un grand prêtre. C'est une des personnes magiques qui marche sur la terre.
Racontez-nous cet homme qui parle, qui transmet
mais
et qui donne envie.
Son père voulait qu'il soit rabbin. Il était d'une famille de rabbins. Et il a toujours dit qu'il avait eu ça en lui, que sa capacité pédagogique venait de là. Mais il y a autre chose qui, pour moi, est fondamentale chez Bernstein. C'est que c'est un homme qui est toujours au bord du fou rire. Tout peut le faire rire, mais sa vie est de rire. Et les Young People's Concerts reposent de toute façon sur l'humour. À chaque fois, il fait une blague. C'est une manière de rentrer en contact direct avec les enfants comme les adultes. Et c'est ça qui a fait le succès de cette émission. C'est la légèreté est une chose très sérieuse. Voilà.
Alia Morgenstern.
Il faut ajouter que notre famille a un lien un petit peu de transmission avec Leonard Bernstein, puisque l'un de nos meilleurs amis, Philippe Binder, qui est chef d'orchestre et flûtiste, a été mon prof de flûte à l'adolescence et a gagné un grand concours de chef d'orchestre quand il était jeune et a été l'assistant de Bernstein à New York. Et donc, je me rappelle qu'à mon adolescence, il nous parlait déjà de ces années-là, avant même que ma mère n'écrive sur Bernstein. Et il y a ce lien qui est créé. Et d'ailleurs, le livre va être écrit avec Philippe Binder.
J'ai écrit le livre avec Philippe Binder qui apporte toutes ces anecdotes personnelles. Mais Philippe ne veut pas que je dise que je parle de son homosexualité.
Celle de Bernstein,
alors, on a un conflit, déjà.
Pourtant, ça le constitue. Ça le constitue, son homosexualité. Il est marié, il a des enfants, mais il a aussi une vie.
Il aime sa femme, c'est un père magnifique.
Et sa femme connaît son homosexualité.
Absolument, dès le mariage. Il y a une lettre qui date de leur mariage, elle est très claire, elle le sait. Et ils ont vécu une véritable histoire d'amour. Pour autant, il a eu beaucoup d'autres histoires. C'était connu, admis. C'est quelqu'un qui, par rapport à l'homosexualité, était quand même en première ligne. Il ne s'en est pas caché. Mais ça fait partie de la liberté du personnage.
Ce qui n'était pas le cas à l'époque aux États-Unis ni ailleurs.
Bien sûr que non. Bien sûr que non.
Il a apporté de la liberté aux gens.
Mais quand on apporte de la joie de vivre, on apporte de la liberté. C'est ce qui fait qu'on ne peut que l'aimer. Je ne vois pas comment on peut ne pas aimer Leni Bernstein. Il peut agacer, on peut critiquer évidemment sa façon de jouer, de diriger, qui était très personnelle.
Il avait une façon de sauter quand il dirigeait. Le corps était en mouvement, mais plus qu'un autre chef. Mais
il aimait la danse.
Oui.
Oui, mais attention, en travaillant et en comparant des versions, je me suis rendu compte que bien souvent, il avait un tempo plus lent que d'autres, à ma grande surprise. Et il donnait toute son énergie physique, certes, mais c'est un homme d'une maîtrise absolue de la partition. C'est un chef d'orchestre, un musicien extrêmement sérieux. Là, pour le coup, il connaissait ses partitions sur le bout du doigt. Il faut voir les partitions de Bernstein, elles sont pleines de notes à droite et à gauche. Il connaissait ça par cœur. Et quand il arrive à Vienne et que l'orchestre de Vienne ne jouait plus Gustav Mahler depuis 1938, quand même se rendre compte de ça à cause, bien sûr, de l'Anschluss. Et qu'il arrive, lui, le juif américain, en leur disant « Je vais vous apprendre votre musicien de votre ville. » Et l'orchestre a pris des vieilles partitions qui traînaient dans les tiroirs. Ils n'ont pas voulu prendre la partition de Bernstein lui-même, qui était donc préparée. Et là, il y a un conflit hallucinant entre l'orchestre et Bernstein lui-même. Parce que lui, mais Mahler, c'est lui, il s'identifie à Mahler. Et donc, il les force à redécouvrir la respiration même de Mahler. Et à partir de là, une histoire d'amour entre l'orchestre de Vienne, qui avait quand même été pendant la guerre un des pires, et notre juif américain, c'est une histoire d'amour extraordinaire.
Alors que ce n'était pas gagné, c'est vrai.
Ou non.
Il jouait avec un t-shirt « I love Mahler ».
Et alors, pour vous amuser, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de courriers avec cette émission. C'est vrai, on a eu un succès qu'on n'avait pas imaginé. Et alors, il y a un auditeur qui m'a dit « Donnez-moi votre taille, je vais vous commander le t-shirt ». C'était « Mahler Grooves ».
Mahler Grooves.
Et alors, pour mon équipe, j'ai fait faire moi des t-shirts « Lenny Grooves
». Lenny Grooves, oui.
On pourrait, on a évoqué Gershwin que vous aimez autant que Bernstein.
Hein. Pas autant.
Ah, vous préférez Lenny.
Plus éloigné. Oui, je préfère Lenny.
Oui, parce que vous l'avez vu quand vous étiez enfant.
Oui. J'ai un lien vraiment beaucoup plus viscéral avec Lenny qu'avec Gershwin.
On peut écouter quand même It's Wonderful par George Guettari et Gene Kelly.
Oui. Hein? It's wonderful.
Wonderful. Marvelous, she should care for me. Soft lies, paradise, it's what I love to see. She's made my life so glamorous. Can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, it's marvelous that she should care for me. It's wonderful,
it's wonderful,
it's marvelous,
it's marvelous.
She should care for me. Awful nights,
awful nights,
paradise,
paradise,
what I love to see. She's made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Marvelous that she should care for me.
Why I fell,
magnifique,
what I seek,
elegant,
what I want,
quelque chose,
from head to toe,
wonderful,
marvelous.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Serge Bloch, qu'est-ce que vous faites là? Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec la famille Morgenstern, en l'occurrence Suzy et sa fille Alia?
Oh bah, avec Suzy, c'est une vieille histoire, c'est ouais. Le cas de le dire.
Elle remonte à quand cette histoire?
85.
Et j'ai ça regardé. S'appelle une vieille histoire.
Vous avez écrit ça?
Oui, avec Serge.
Et dessiné ça.
Et l'éditeur ne voulait pas qu'on se rencontre.
Alors on s'est rencontrés clandestinement.
Il voulait pas. C'était une histoire de ma belle-mère, une femme juive qui a fait cacher ses enfants pendant la guerre. Et l'éditeur a dit qu'il voulait pas des signes, des symboles juifs dans le livre pour ne pas empêcher les enfants normaux à apprécier le livre.
Il a employé cet adjectif?
Non.
Ouais.
Ah oui?
Oui, oui. Et il ne voulait pas que je rencontre Serge. Et on s'est rencontrés clandestinement. Et j'étais tellement, tellement ravie de rencontrer Serge. Il était tout de suite mon petit frère.
Exactement.
Serge est le fils du boucher cachère de Colmar. Ce que vous pouvez lire dans son livre autobiographique, La rue de l'ours, et je vous le conseille fortement.
Oui, avec l'écriture de Marie Desplechin.
Oui. Hein. Et Serge a mis clandestinement toutes sortes de symboles dans le livre.
C'est pas très clandestin, quand même. Parce que l'histoire était quand même très, très claire. Et c'est vrai que du coup, on se connaît depuis 34 ans.
Voilà. Donc il y a eu une complicité clandestine au départ.
On a fait beaucoup de livres ensemble.
Après, on a fait beaucoup. Oui, on en a fait un il n'y a pas si longtemps, mais avec un lien en partenaire aussi. Mais c'est vrai que c'est une vieille histoire. Alors, et ce livre n'est plus publié ici d'ailleurs.
Lequel?
Une vieille histoire,
oui. C'était réédité plusieurs
oui.
fois.
C'est une
mais c'est
histoire.
Un best-seller au Japon.
Oui.
Grâce à Serge.
Non, grâce à la traductrice, qui est une grande actrice japonaise, dont j'ai oublié le nom.
Oui, mais de toute façon, vous êtes lu en France et loin de la France aussi, un peu partout dans le monde, comme Suzy d'ailleurs, vous avez ça en commun. Hein? Vous êtes traduite dans combien de pays, vous, par exemple?
Je crois une trentaine.
Une trentaine. Et vos dessins circulent dans combien de pays, a priori?
Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai la chance de pouvoir travailler, comme le dessin, ça se traduit facilement, c'est ça, pour travailler dans plein de pays.
On ne pense pas d'ailleurs au lecteur international, j'imagine, quand on écrit et qu'on dessine.
On ne pense même pas au lecteur, tout court, je crois.
On écrit pour soi d'abord.
Ah oui.
Pareil pour le dessin?
Ça dépend pour qui on dessine, comme j'ai dessiné beaucoup pour des journaux, donc je sais par exemple quand on dessine aux États-Unis, où j'ai pas mal sévi, on dessine pas tout à fait, on a des tabous qu'on n'a pas. On n'aime pas trop les formes trop féminines, les choses comme ça, c'est pas très bien vu. Faut pas, la nudité, c'est assez tabou aux États-Unis.
Suzy Morgenstern, à quoi ressemble le dessin de Serge Bloch? Est-ce que vous sauriez, à la radio, nous dire à quoi ressemble un dessin de Serge Bloch?
Ça ressemble à la tendresse, au jazz. Alia et moi, on l'appelle le magicien parce qu'il transforme, il interprète nos mots d'une façon qu'on ne pouvait pas rêver mieux.
Et il y a une dimension Alia. Extrêmement dynamique, comme si au lieu d'être dans l'instant T, on voyait se dérouler le temps et la vie et l'énergie au-delà du trait.
Un trait qui est volontairement très simple, hein?
Oui, et très évocateur.
Et très dénudé d'une certaine manière, et très évocateur. Ça fait quoi d'entendre tout ça, Serge Bloch?
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Vous savez dire, vous également, en retour, à quoi ressemblent les livres de Suzy Morgenstern, en général, que vous illustrez?
Mon problème avec Suzy, c'est que je ne peux pas lui dire non, de toute façon. Donc, dès qu'elle m'envoie un projet, je suis obligé de lui dire oui. Et c'est comme ce que disait Suzy avant est vrai, j'ai une espèce de rapport familial avec elle. Donc c'est vraiment chaque fois une histoire de famille. Je sais pas, c'est magique.
Et d'amour.
Parce que j'ai la chance d'avoir rencontré quand même quelques auteurs.
Justement, en quoi elle se différencie?
Ah bah parce que Suzy, c'est Suzy. Je peux pas dire.
Allez, essayez de mettre des mots là-dessus, ça m'intéresse.
Des mots là-dessus.
Oui,
je mets des dessins d'habitude sur les mots.
C'est vrai.
C'est pas
des mots.
Si vous deviez dessiner Suzy.
Mais j'ai dessiné Suzy.
C'est son dessin qui apparaît dans toutes les affiches, partout où je vais.
On vous voit avec des lunettes? Encore?
Ah oui,
oui.
Des robes fleuries?
Je sais plus.
Des lacets roses.
J'ai fait ces couvertures aussi de romans plus biographiques.
Oui. Serge a fait la couverture de Fleur d'Arnive que en fait, j'adore. Ah oui.
Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai un dessin effectivement simple qui m'aide à voyager et à raconter des histoires et qui fonctionne très bien avec les mots de Suzy parce qu'ils sont à la fois très simples aussi et très profond, donc c'est assez facile pour moi de me mettre dans son monde.
J'espère que Serge Black va illustrer le livre sur Leonard Bernstein. Et pour ça, il va falloir écouter les 16 podcasts d'Emmanuel Franck.
Ça n'a pas l'air trop difficile, ça va. Je pense que je vais y arriver.
Vous voulez écouter un petit extrait de la série, d'ailleurs, d'Emmanuel Franck sur Bernstein?
Ouais.
Ouais. Waouh. C'est un moment où il est en train d'enregistrer pour le disque, donc, West Side Story.
Comme vous le savez, je connais bien cette œuvre. Mais il fut un temps où ce n'était pas le cas. Et comme en fait, je ne l'avais jamais dirigé de ma vie... Il a fallu que j'étudie la partition. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû travailler 10 jours et 10 nuits. C'est sacrément funky. Elle est tellement funky, cette musique. Et quand mes gosses l'écoutaient, ils me disaient ça. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est funky. C'est rhythm and blues.
Le réalisateur anglais Christopher Swan a filmé les séances d'enregistrement de l'album. La régie est prête.
Jouez. Moi, j'ai écrit.
Un musicien estime qu'il devrait leur donner une indication.
Non, non, toi tu dois jouer. Moi j'ai écrit ça avec mon stylo rouge. Putain, jusqu'à 4 heures du matin j'ai bossé. Et cette info tu l'as déjà eue. Pourquoi t'es pas foutu de livrer le message? Bon, on en est où? Mesure 48.
Emmanuel Franck, une réaction à ce moment de votre série?
Oui, alors c'est au tout début des répétitions de West Side Story pour un disque qu'il va faire en 1980. Alors ça, c'est fascinant. Parce que on dit toujours Bernstein, West Side Story. Mais en fait, il a été dépossédé de l'œuvre en tant que chef d'orchestre. Le film, la musique pour le film, ce n'est pas lui qui dirige. Et il ne l'a pas donné pendant des années. Et donc, dans les années, donc on s'est créé en 58, il fait ce disque dans les années 80. Et c'est ajouté à cela sa fascination absolue, son obsession absolue, c'était de faire un opéra. C'est-à-dire qu'il s'est, à ce moment-là, et vous l'entendez le dire, réapproprié cette œuvre de façon à donner enfin sa propre version et surtout s'approcher de son propre Graal. C'est-à-dire que, oui, même une comédie musicale, c'est tout de même, au fond, un opéra.
Je crois que vous avez dit un jour, il a inventé la tragédie musicale.
Ah oui, West Side Story, c'est vraiment une tragédie musicale, bien sûr, mais comme tous les gens extrêmement gays, follement gays, évidemment que à l'origine, tout de même, ses parents sont partis au moment des pogroms pour arriver en Amérique. Au même moment, d'ailleurs, Gustav Mahler est arrivé en Amérique, même année. C'est quand même. Moi, je crois que les histoires existent toujours au préalable. Simplement, il faut s'approcher jusqu'à ce qu'on voit que elles se sont croisées. C'était là que ça se passait.
Il y a juste un puzzle, une question que j'ai sur Bernstein qui était follement gay. Heureux dans sa vie, pourquoi il fumait à la chaîne et buvait sans arrêt?
Oh, moi, je le comprends. Oui, si, je comprends. Mais il bouffait la vie. Ah, oui, il aimait fumer. Moi aussi, je fume. Oui, il aimait le whisky. Il aimait. C'était quelqu'un qui aimait la bonne chair aussi. C'est un jouisseur de la vie. Peut-être qu'il pensait que mieux valait une vie courte, mais absolument merveilleuse, qu'une vie longue. Certes, aimé, mais lui, il avait besoin de vivre à 100 à l'heure. Oui, à un moment, on ne peut pas passer à 150. On s'arrête à 100.
S'il aimait boire et fumer, on va se comprendre, parce que j'ai beaucoup fumé, j'ai arrêté longtemps, mais j'aime toujours bien boire.
Vous avez dessiné peut-être ça aussi chez lui?
Sûrement.
Pas simplement un homme à la baguette?
Probablement. C'est difficile de parler de quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Donc c'est...
Vous lisez combien de fois un texte avant de vous lancer?
Je ne lis pas toujours les textes que j'ai écrits.
Qu'est-ce que vous racontez?
C'est comme du jazz, elle dit. C'est vrai. Non, c'est pas vrai, je lis quand même un peu.
Parce qu'on vous raconte le projet et vous pouvez vous
lancer?
Non,
j'aime bien. Parce que ça fait longtemps que je dessine et j'adore essayer de garder de la spontanéité. C'est essentiel dans ce qu'on fait. C'est pour ça que mes dessins sont un peu vivants. Donc souvent, je commence le bouquin sans savoir où je vais et le bouquin se fait en même temps. et je réfléchis en dessinant.
Je ne sais plus si c'est Suzy ou Alia qui disait il a quelque chose du jazz.
Oui, jazz, c'est ce que Serge Bloch. En tout cas, moi, je dis que je réfléchis avec la main et je pense avec le. Je pense avec la main et je réfléchis comme ça. C'est la main qui me guide aussi.
Vous avez la main swing.
Non, mais c'est le dessin naît souvent du geste. C'est pas aussi pensé à la. Enfin, c'est comme la musique, je pense. On a beaucoup intégré de phrases ou de choses à dire et elles sortent comme ça.
On va évoquer La La Land, comment tu as appris à parler, votre collaboration en trio, Alia, Suzy Morgenstern et Serge Bloch. Mais je voudrais qu'on écoute La Poésie. La Poésie, c'est une très belle chanson de Dominica.
Le Grand Atelier sur France Inter.
La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est. Puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Qu'après avoir tant annoncé, un départ mille fois reporté, elle avait ôté le manteau du crochet, où depuis des siècles il pendait, puis s'en était allé, puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème pour nous sauver, sans un poème pour nous sauver. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer par chez toi et sur ton bureau. J'ai vu les ratures au stylo, quelques mots qui se sont glissés sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains, ils ont pris le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi, mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faudrait s'y raccrocher.
Et voilà, Suzy Morgenstern ne connaissait pas notre auteur-compositeur-interprète français Dominica. Est-ce qu'il vous a plu?
Beaucoup. J'ai presque dit waouh.
On était à deux doigts du waouh.
Oui.
Alia Morgenstern, c'est quoi ce livre, La langue, comment tu as appris à parler? Ça part de votre métier, cette intention d'écrire ce livre?
Oui, c'était une façon de nouer nos deux vies au moment où, où ma mère était très malade. Donc c'est elle qui a eu l'idée, elle a écrit la première phrase. Et ensuite, chaque fois que je descendais pour être auprès d'elle, ben on continuait.
La première phrase. Quand tu es née, on t'a plongé dans deux bains, un bain d'eau chaude pour te nettoyer du voyage et un bain de langage. Et tout ce livre va dire comment on peut acquérir le langage de la naissance à quel âge? Plus de 6 ans?
Oui, juste tout au long de la vie, en fait. On n'arrête jamais d'acquérir le langage avec toutes ses subtilités. Mais c'est absolument merveilleux. Comme disait ma mère, d'habitude, j'écris pour 3 personnes et demie dans des articles scientifiques. Ou bien, évidemment, j'enseigne beaucoup, donc je transmets aussi à mes étudiants. Mais c'est merveilleux de toucher un autre public en entremêlant nos deux voix, parce que moi, je n'en suis pas capable toute seule. C'est très, très difficile pour les scientifiques d'écrire pour les autres, pour les personnes qui n'ont pas la même éducation scientifique. Il y a quelques jours, j'ai fait une émission de radio et la journaliste m'a dit qu'elle m'avait demandé de lire mes articles scientifiques. J'ai envoyé les plus simples, ceux qui sont en français. Elle m'a dit oh, qu'est-ce que c'est difficile à lire. Et là, ça m'a frappée, ça m'a fait mal en même temps de me dire que je suis pas lisible. Donc je remercie ma mère et Serge, d'avoir rendu visible tout ce que j'essaye de transmettre, en fait, par mes recherches.
Et notre éditrice, Béatrice de Croix, parce que c'est fou que c'est la première fois qu'on parle de l'apprentissage du langage dans un livre pour enfants.
Et Béatrice a eu le courage de publier un livre qui n'est ni une fiction, ni un documentaire, avec un format extrêmement particulier, et puis le courage de travailler sur notre langue, parce qu'on était toujours en conflit, toujours pas d'accord avec elle dans ses corrections, et en fait, elle avait tout le temps raison, c'est une vraie professionnelle, donc il faut avoir le courage aussi de s'engueuler avec ses auteurs pour arriver à faire un beau livre.
Alors qui va nous lire un extrait, Suzy ou Alia?
Alia, la Française.
Allez, la Française.
La Française. Quand tu es née, on t'a plongé dans deux bains. Un bain d'eau chaude pour te nettoyer du voyage et un bain de langage. Après chaque dodo, tes parents, les amis, la famille te parlent tout le temps, te sourient, te caressent, te portent en te chuchotant des mots doux. À leur façon, tout droit venu du cœur, ils te souhaitent la bienvenue au monde. Et toi, comment réponds-tu? Avec des pleurs, des petits cris ou rien du tout? Mais c'est si bon d'écouter ces voix, de se sentir touché et porté, bercé et enveloppé dans cette musique et ces odeurs. Toutes ces voix t'entourent et te disent « Je t'aime, je suis là avec toi, tout va bien ». Tu les entendais déjà dans le ventre de ta maman et quand tu es né, tu les as reconnues, ces voix si familières. Mais pour pouvoir répondre aux autres, ton petit cerveau doit être prêt et cela prend du temps. Tu apprends d'abord à bien respirer, à rester un peu plus éveillé au lieu de dormir tout le temps. Ce n'est pas évident d'apprendre à vivre.
Serge Bloch, vous qui avez illustré ce livre sur le langage, c'est pas évident quand on vous dit « voilà, on fait un livre sur l'acquisition et l'apprentissage du langage, est-ce que tu peux dessiner ?» Ça a dû vous faire un drôle d'effet.
Oui, enfin, le texte était quand même déjà bien, bien clair. Ce qui était aussi intéressant dans ce projet, c'était de travailler avec Valérie qui a été la directrice artistique de ce livre, et qui a eu l'idée d'ailleurs d'utiliser les tampons, qui m'a glissé ça à l'oreille. Et je trouvais que c'était une manière assez amusante de montrer, avec un jeu de lettres en tampons, les mots qui venaient. C'est un peu laborieux par contre, parce qu'on a dû beaucoup tamponner.
Oui, des mots comme « je ne veux pas me coucher ».
Et après, je me demande comment ça va être traduit dans d'autres langues.
Dinosaure, extincteur.
C'est très difficile, on a essayé de travailler sur la traduction en anglais. Et il faut vraiment connaître la culture et ce qu'on dit aux enfants pour arriver à le traduire. Mais ce qui est beau aussi dans le dessin, c'est que pour moi, apprendre le langage, ça ne passe pas que par les mots, ça passe par le corps, ça passe par les gestes. Et ça, on le voit très très bien dans les dessins de Serge.
Suzy.
Est-ce que des fois tu as des textes que tu n'aimes pas, que tu illustres des textes que tu n'aimes pas?
Je ne dirais pas.
Est-ce que ça t'arrive?
Ça arrive, oui.
Oui, ça peut arriver, bien sûr. Que des fois, on accepte des projets, puis on est un peu déçu. Mais des fois, la plupart du temps, j'ai la chance de ne pas avoir trop. Non, j'ai des beaux projets toujours, donc ça va. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de dessins de presse. Là, c'est quand même un autre genre de dessin, mais c'est vrai.
Oui, vous avez ces deux activités. Hein.
Oui, j'en ai plein, je fais plein de choses très différentes. Tout tourne autour du dessin quand même, mais j'essaie de varier les plaisirs.
Des sculptures aussi?
Oui, oui, des expos. Non, je travaille, j'ai un grand projet, par exemple, c'est une expo sur l'humour. D'ailleurs, peut-être je t'appellerai. En tout cas, mon idée, c'est de faire des installations avec les gens du 104. On est en train de mettre tout ça en route. Où les gens, ça ira de choses très intelligentes à des choses qui sont tout aussi intelligentes, qui peuvent être les blagues de Toto, par exemple, parce que c'est important. L'apprentissage de l'humour, ça se fait par des choses comme ça. Et jusqu'à travailler avec Frédéric Boyer ou avec des auteurs.
Oui, vous avez travaillé sur la Bible avec lui au 104 à Paris.
Oui, Frédéric est un grand copain. Donc, quand je lui ai dit j'avais ce projet, il m'a dit, mais moi, ça m'intéresse, je vais t'écrire des textes. Donc, j'accueille, moi, tous les gens qui veulent.
Boyer a publié Fleurs tardives,
oui,
au pluriel.
Et Jacques a dit.
Fleurs tardives, où vous racontez récemment, d'ailleurs, votre rencontre avec Georges, qui est votre amoureux. Aujourd'hui, après votre grand amour Jacques, c'est le mari d'Alia, votre fille aînée, qui vous a inscrit sur un site de rencontre sur Internet. Et puis ça a marché. Georges est rentré dans votre vie comme ça.
C'était les deux gendres.
Les deux. Ah, je pensais qu'il était le seul responsable.
Qui m'ont dit un jour, parce que j'ai pleuré 10 ans après la mort de Jacques, et ils m'ont dit, ça suffit avec le deuil, tu es encore potable. Mais c'était il y a 14 ans.
Et puis ça a marché, je ne vais pas tout raconter parce que tout est dans le livre et c'est très beau parce que c'est à la fois vous qui racontez cette rencontre et puis la suite, et Georges Rosenfeld qui lui aussi donne sa version des faits, quelquefois différente, et vous vous répondez, c'est presque musical cet échange, Suzy Morgenstern.
Oui, Georges n'est pas un écrivain, mais il a bien écrit. Georges tellement coincé, suisse.
Oui, il est suisse. Ça vous fait rire, Alia, oui. Son côté coincé.
Ben moi, je trouve que justement, par rapport à l'image qu'on pourrait en avoir, il n'est pas si coincé.
Ouais. Il est vraiment coincé. Ouais.
Il y a une première scène exceptionnelle, on n'a pas le temps de la lire, mais vous faites preuve d'une sacrée audace. Si, on va prendre le temps de le lire. Vous faites preuve d'une audace exceptionnelle. Vous vous écrivez longtemps, vous décidez de vous voir. Il vient à Paris, je crois que c'est à Paris, vous le rencontrez. Il a pris une chambre d'hôtel parce qu'il va passer quelques jours à Paris. Et vous montez avec lui dans la chambre d'hôtel, ce qui n'était pas du tout prévu. Et vous le poussez sur le lit. Et à ce moment-là, vous écrivez, il aurait pu mourir sur le... Je prends votre accent. Il aurait pu mourir sur le coup. Et qu'est-ce que j'aurais fait? Appeler ma fille. Voilà l'humour de Suzy Morgenstern. Vous avez retrouvé la scène dans le livre?
Je ne saurais jamais comment j'ai eu l'envie, la perspicacité, le culot, l'intelligence, la bravure, l'initiative, le courage d'oser un geste pareil. Mais c'était évident. J'avais affaire à un grand timide et si coincé que si j'avais attendu un acte aussi résolu de sa part... J'en aurais eu pour des années. À nos âges, on n'avait pas le temps de tergiverser, pas le temps de faire la cour, pas le temps tout court. Il fallait vivre dans ce moment précis de cette éternité si finie. J'en avais marre de guetter le Messie. Je ne sais pas comment la sagesse, l'action, l'esprit d'aventure, l'audace m'ont frappé. Mais je sais que c'est la meilleure démarche que j'ai jamais entreprise de ma vie.
Oui, mais moi, à l'époque, j'étais dans tous mes états.
Et votre sœur aussi.
Parce que ma mère habitait chez moi et qu'elle ne rentrait pas alors qu'elle devait simplement dîner. Et vous imaginez ce que c'est que d'avoir sa maman, dont le mari est mort des années plus tôt, qui voit pour la première fois un homme et qui rentre pas à la maison au moment où on pense au sida, au moment où on pense à tout ça. J'étais dans tous mes états et quand elle m'a appelée quand même pour me dire qu'elle ne rentrait pas, je lui ai dit « Tu rentres tout de suite à la maison !» J'étais furieuse.
Vous êtes un peu la mère de votre mère.
Voilà.
Serge Bloch, ça vous fait rire tout ça? Ça vous étonne pas?
Ça m'a fait rire quand je l'ai lu, parce que je l'ai lu il y a longtemps.
Rien ne vous étonne.
Et pour faire la couverture.
Ah oui, donc j'étais un des premiers lecteurs de ce livre.
Vous êtes dessiné en couple avec Georges, Suzy, et il vous a fait une petite couronne de fleurs. Est-ce que ça vous arrive d'en porter?
Parce que j'ai une photo de Suzy avec une couronne de fleurs à côté de Georges que tu m'avais envoyée.
À un certain âge, c'est... On va pas dans les bars ou les balles. Il faut faire une démarche pour trouver l'âme sœur, frère.
je suis très reconnaissante au site web qui m'a branchée à Georges il y a 14 ans.
Vous avez rencontré beaucoup d'hommes avant lui sur ce site?
J'ai rencontré deux. Et puis un jour, une femme m'a téléphoné et elle m'a dit avec un accent très anglais, « Je ne sais pas ce que Peter vous a dit. » Mais nous sommes mariés depuis 40 ans, on a 3 enfants, nous sommes toujours mariés. Et là, la fiction est entrée dans ma vie. J'ai téléphoné à mes sœurs, j'ai dit, tu sais ce qui m'est arrivé? Parce qu'on peut te raconter n'importe quoi. C'était un bel homme et il était contrebassiste.
Ah, beaucoup de points communs.
Ouais. Et il est venu à Nice me rencontrer, il est reparti et il me téléphonait et sa femme m'a téléphoné tout de suite après.
Et vous vous êtes retiré élégamment.
Ah oui.
Il y a un autre homme, à mon avis vous auriez aimé qu'il soit l'homme de votre vie, mais c'était bien avant de rencontrer Jacques et Georges. C'est un cinéaste, il est l'auteur de Manhattan, de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, on l'écoute. La question qu'on lui posait c'était depuis combien de temps faites-vous une psychanalyse, Woody Allen?
Oh, c'était il y a si longtemps, j'ai oublié pourquoi j'ai commencé. J'ai commencé, je pense, vers l'âge de 20 ans. Je pense que j'étais très désespéré. Je suis toujours désespéré, mais plus vieux. Et c'est une chose étonnante parce que ce que j'aime faire, je le fais. J'aime rester à la maison pour écrire, faire des films, jouer de la clarinette, aller voir du basket. Je fais toutes ces choses, mais je ne suis pas heureux. Je n'ai strictement rien d'un intellectuel. Je n'ai aucun intérêt pour les choses intellectuelles. Mais mes lunettes sont trompeuses. Sérieusement, avec mes grosses lunettes noires, on me prend pour un intello torturé, beaucoup plus que je ne le suis.
J'aurais beaucoup aimé le rencontrer. Quand j'ai vu le rose pourpre de Caire, j'ai rêvé de lui toute la nuit et j'ai rêvé qu'on s'embrassait passionnément.
On va se quitter, je vais remercier Emmanuel Franc, la spécialiste de Bernstein entre autres. C'est une fan des grands chefs d'orchestre, Emmanuel Franc, donc il y a certainement d'autres documentaires qui vont arriver.
Ah là, ce n'est pas un chef d'orchestre, je suis en train de préparer, je suis en studio tout à l'heure. La nouvelle série, c'est sur Vladimir Horowitz.
Vladimir
Horowitz. Je l'appelle Vladou.
Le grand pianiste Horowitz, oui. Passionnant lui aussi, hein. À la fois déprimé et joyeux, un drôle de mélange. Hein.
J'ai eu plus de mal à l'aimer, mais je peux dire que j'apprends à l'aimer tendrement.
Merci Alia Morgenstern d'être venue accompagner votre mère et témoigner de ce que c'est d'être sa correctrice et sa fille.
Et merci pour cette belle émission qui nous a beaucoup fait plaisir à tous. Je
pense. Une émission familiale, hein.
Oui,
comme souvent, avec Serge Bloch, qui est l'un des enfants de Suzy Morgenstern, ou le petit frère. Hein.
On a presque le même âge, hein, Serge.
Non.
On a reçu beaucoup de messages, je le disais en démarrant cette émission, sur Facebook, vous concernant. D'ailleurs, Alia aussi, votre prof de flûte traversière à Nice, vous salue.
Oh, merci beaucoup.
Voilà, il vous écoute. Bonjour, monsieur. Et puis, il y a celui-ci pour vous, Suzy, signé d'une institutrice, une professeure des écoles, qui s'appelle Sophie. L'œuvre pour la jeunesse de Suzy Morgenstern a été, pour l'enseignante en primaire que je suis, une source d'inspiration et de réflexion. Elle a permis à de nombreux élèves en décrochage d'avoir un peu moins peur des livres et pour certains de découvrir le plaisir de la lecture. Merci à elle pour son imagination, l'humour dans ses récits et pour la qualité des illustrateurs choisis qui participent au succès de son œuvre.
Je n'ai pas vécu pour rien alors.
Hein? Savoir qu'on est utile, c'est une chance?
Ah oui, on aimerait être utile. Et c'est le plaisir d'écrire pour les jeunes parce qu'on va dans les écoles et on rencontre. Et quand un enfant vient de dire, après la séance, c'est le premier livre que j'ai lu jusqu'au bout, on est content.
Portez-vous bien, Suzy Morgenstern.
Merci.